L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion. C'est à midi en direct, c'est en rediffusion à 18h. Notre invitée du jour a déjà fait entendre sa voix sur nos ondes. Elle est psychomotricienne à son compte et elle fait aussi partie du réseau Entreprendre au Féminin Bretagne. Dans ce cadre, elle avait eu droit à son portrait radio. Elle a aussi créé une association qui propose aux personnes isolées, souvent accompagnées au quotidien pour des troubles ou pour un handicap. Donc elle leur propose de se retrouver une fois par semaine, le mardi, pour un déjeuner et même ensuite une après-midi. C'est à Carhaix, ça s'appelle On se rencontre. Aujourd'hui, elle vient nous parler d'un sujet qui prend de l'ampleur dans un pays qui vieillit forcément, et c'est aussi un peu sa spécialité, puisqu'elle est psychomotricienne. Ça veut dire qu'elle travaille aussi bien sur le corps que sur l'esprit des gens et sur les interactions entre physique et mental, puisque nous sommes toutes et tous un tout. Elle a aussi travaillé autrefois dans une structure auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Bonjour Eve Parodi.
Bonjour.
Ça allait ma définition de la psychomotricienne ?
Oui, très bien. Très bien.
Alors, le handicap, voilà, quand on a dit handicap cognitif, déjà on va se restreindre au handicap cognitif. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en fait ? Est-ce que le terme handicap est vraiment approprié ?
Alors, moi, j'aime bien appliquer la notion de handicap sur les maladies neuro-évolutives, effectivement. Alors, en France, c'est un petit peu particulier parce qu'on est le seul pays européen qui met une barrière de l'âge. Avant 60 ans, la personne, elle peut relever d'un handicap. Passé 60 ans, elle relève de la dépendance. Donc, concrètement, ça veut dire qu'à 61 ans, si on te diagnostique une maladie de type Alzheimer ou maladie apparentée, tu relèveras de la notion de dépendance. À 59 ans ou avant, on parlera de handicap. Tout ça pour dire que suivant comment on aborde une pathologie, une maladie, un handicap cognitif, eh bien ça peut changer une approche totalement.
En effet. Voilà, c'est juste pour des raisons, en fait, de savoir si on a droit d'aller être hébergé dans un EHPAD ou pas, en fait. C'est ça, hein, cette frontière des 60 ans, non ? C'est la limite d'âge.
Non, hein. La frontière des 60 ans, elle est liée plutôt à des prestations ici en France.
C'est ça.
Voilà, donc soit tu perçois la PCH, qui est deux fois plus importante que l'APA. Donc, voilà, il y a une notion financière, mais pour nous, citoyens, eh bien, je pense que si à 61 ans, à 70 ans, à 80 ans, si on te parle d'une maladie neuroévolutive en l'abordant plutôt sous une approche de handicap, on va plutôt aborder et penser en termes de besoins, de solutions, de compensation. Donc, pour moi, c'est un prisme plus positif.
Oui, finalement.
Que maladie, ouais. Et surtout que les maladies neuroévolutives.
Quelles sont-elles ? Ouais, il faudrait peut-être refaire un panorama quand même pour donner une idée.
Ouais. En fait, on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer puisque sur une centaine de personnes, on va dire, touchées par une maladie neuroévolutive, il y a à peu près 50 qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même celle qui est la plus représentée en France. Et ensuite, il y a à peu près... il y a énormément d'autres maladies... on pense à les maladies temporo-frontales, on pense aux démons sur Parkinson, on pense aussi, il y en a eu à peu près 7 de maladies neuroévolutives.
Et sans doute d'autres qui ne sont pas vraiment nommées, c'est ça ? Pas encore
oui,
tout à fait
c'est
bien
ça,
identifié.
Ouais, c'est, voilà, on rentre ou pas dans une case. Toujours est-il que je voulais te dire que quand il y a un diagnostic d'une maladie neuroévolutive. Et quand on dit maladie Alzheimer ou maladie apparentée, en France, c'est une maladie qui fait excessivement peur. C'est celle qui fait le plus peur juste derrière le cancer. Donc, c'est vraiment un choc, un trauma en règle générale pour les familles, pour les proches, quand on te pose ce diagnostic.
Et quand on dit neuroévolutive, il y a évolutive dedans, c'est elles évoluent plutôt à quel rythme ?
Ah, eh bien, en fait... Je vais te parler de notre histoire. quand le diagnostic a été posé pour ma maman, bon, moi, bien sûr, j'étais psychomotricienne, mais je n'étais absolument pas dans ce domaine-là. Je suis allée voir sur Internet. Et en fait, j'ai vu des étapes, comme c'était très rapide. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ça peut être très, très long. Tu vois, pour ma maman, ça fait plus de 10 ans. Et on commence seulement à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc, ça peut être très lent, suivant les pathologies. Pour certaines, ça peut être très rapide, effectivement. Mais pour Alzheimer, normalement, c'est plutôt lent. Et en fait, les premiers signes apparaissent alors qu'il y a quelque chose de très ténu qui est là et qui existe et qui se développe tout doucement, mais que l'on peut retarder.
C'est ça l'intérêt aussi. Ouais.
Voilà, on sait qu'aujourd'hui, on peut retarder le développement de cette maladie. Il y a eu des centaines d'études faites sur Alzheimer. Et si tu compiles un petit peu toutes ces recherches, on sait que si on fait attention aux facteurs de risque, où tu transformes en te disant voilà, sur quel point je peux travailler pour ralentir. Donc ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'hydratation, ça peut être les facteurs de stress, tu vois.
Mm-hmm. Voilà. Ils sont vraiment bien identifiés. Enfin, on en est sûr que c'est les facteurs aggravants. Hein, tous ces, un mauvais sommeil, c'est un facteur aggravant de...
Oui. Ouais. Oui. En fait, il y a. Alors, attends, je prends mes petites notes, mais oui. Tout le monde s'est accordé sur le fait qu'il y a deux facteurs qui sont des facteurs de risque. Il y a le facteur d'âge et bien sûr, il y a le facteur génétique. Il y a d'autres facteurs qui sont listés, comme les facteurs de risque vasculaire, donc l'hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, le diabète, l'obésité. Il y a aussi les habitudes de vie, comme le tabagisme, la consommation d'alcool, la sédentarité, le stress chronique. Il y a aussi tout ce qui est médication à effet secondaire.
Ah oui, par exemple,
par exemple, au Canada, ils disent que les somnifères, ça doit être pris sur une période très courte. Bon, si tu regardes en France...
Ah oui, en France, ce n'est pas tellement le cas. Il y a beaucoup de gens qui prennent des somnifères à vie ou presque. Hein.
Mmh. Oui, voilà. Mmh. Donc, il y a aussi la perte d'audition.
Mmh. Oui, ça, on n'y pense pas forcément. Hein. C'est vrai, on se dit, tiens, quel rapport entre la perte d'audition et la maladie d'Alzheimer. Et en fait...
En tout cas, c'est les troubles cognitifs. Oui,
les troubles cognitifs. Ouais. Ouais.
Perte d'audition. On sait que les personnes qui ont subi un traumatisme crânien aussi sont beaucoup plus exposées, fragilisées. Voilà. Et puis après, il y a tous les facteurs environnementaux.
Qui sont peut-être moins bien analysés. Enfin, en fait, des pollutions, ça serait ça qui serait à l'origine de...
Oui, on parle de pesticides, métaux lourds, mais aussi les déficits en vitamine D, par exemple.
Ah oui. Ouais.
Donc, tu vois, c'est multifactoriel. Et moi, je me dis que si on travaillait sur une multi-approche, probablement qu'on prendrait déjà beaucoup mieux soin de nous. Et aujourd'hui, tu sais, il y a un courant qui dit que vieillir en bonne santé, health age, bon, je n'ai pas l'accent, mais du coup, il y a tout un courant comme ça qui se développe, qui est parti de Toulouse et qui travaille sur la prévention et qu'est-ce qu'on peut faire pour vieillir en bonne santé.
Oui.
Et ça passe par ce que je t'expliquais tout à l'heure. Bien sûr, une activité physique régulière. Un bon sommeil.
Une alimentation saine,
Une alimentation saine, c'est ça. C'est
et,
ça.
Et donc, le problème, c'est en fait, dans ces maladies-là, surtout Alzheimer, donc, qui fait très peur, c'est d'accepter un diagnostic, de se faire tester, c'est ça, non ?
Oui, alors en fait, il y a deux cas de figure. Soit tu as conscience qu'il y a quelque chose qui change dans ton mode de fonctionnement.
Et par exemple, quoi alors ?
Alors, pour ma mère, par exemple, c'était la notion du temps. Quelque chose qui glisse, des difficultés à planifier, à s'organiser. Voilà. C'était très marqué. Pour d'autres, ça va être vraiment un manque de clarté, tu vois, une concentration qui est de plus en plus difficile, avec des difficultés à se souvenir, avec des trous comme ça qui apparaissent de plus en plus récurrents. Pour d'autres, ça peut être au niveau du langage. En fait, il y a vraiment une perception d'un changement de son mode de fonctionnement qui est très interne au début, que l'entourage ne voit pas forcément, puisqu'on a plein de stratégies de compensation, et qui à un moment donné devient visible. Donc soit on est dans ce cas de figure et...
On est courageux pour se faire tester, quoi, dans ces cas-là.
Et on se dit, voilà, alors bien souvent en plus, dans la famille probablement qu'il y a un proche qui a eu la maladie. Très souvent dans les histoires que moi j'ai, les personnes que j'ai accompagnées, c'est souvent ça, c'est ma mère, ma tante, mon oncle, voilà. Donc j'ai peur, je suis encore plus à l'écoute de ce qui se passe dans mon fonctionnement et je décèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien souvent quand on commence à en parler, c'est qu'on a observé pas mal de signes. Soit c'est le premier cas de figure, soit c'est le deuxième cas de figure. La personne ne se rend pas compte, n'a pas conscience. Et c'est souvent les proches, le conjoint, les enfants, qui observent et qui pointent. Et qui, du coup, là, ont du mal à faire entendre, parce que c'est souvent comme ça que c'est formulé, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et là, c'est un peu plus compliqué que d'aller bras-dessous chez le gériatre, le spécialiste, en tout cas le médecin traitant, pour dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, puisque c'est les proches qui observent. Voilà. Donc là, on est. Je pointe juste ce deuxième cas de figure parce que c'est quand même celui auquel on est confronté, où il y a le plus de difficultés, sur lesquelles les proches, en fait, ont du mal parce que souvent ils disent oui, mais il y a déni.
Oui, c'est ça.
Je
ne
veux pas voir. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas du déni. C'est vraiment que ça fait partie de la maladie. La personne n'a pas conscience de ses difficultés.
Mais il n'y a pas des gens qui ont conscience et qui sont dans le déni, qui refusent de se faire diagnostiquer. Il doit y avoir ça aussi, forcément.
Alors, je pense qu'on on est très nombreux. Je m'inclus parce que, comme moi, je suis la fille d'une personne qui a maladie d'Alzheimer, donc j'ai une forte probabilité d'avoir le gène. Pourquoi aller se faire diagnostiquer s'il n'y a pas de traitement curatif?
Tu vois, c'est ce qui... C'est exactement ma question.
Ben oui,
beaucoup
c'est...
plus clairement formulée.
C'est ce qu'on se dit. On se dit pourquoi y aller? Effectivement, soit tu te dis il n'y a pas de traitement, j'y vais pas, parce qu'en plus, pour l'avoir vécu avec ma maman, tu passes par des phases de dépression. Enfin voilà, tu mets un mot sur ce que tu vis. Avec tous les mots que tu entends autour de toi. Démence, déambulation, je ne vais plus me souvenir des prénoms de mes petits-enfants. Tu vois, des choses qui arrivent tardivement, normalement, très tard. Sauf que tu entends que autour de toi, comme si ça allait arriver demain.
C'est ça, on ne se projette pas dans du positif quand on apprend ça. Hein. Oui.
Voilà, pas du tout. Et puis après, tu rajoutes le trauma de l'annonce, le stress que ça génère. Donc, on est vraiment dans une spirale négative. Aujourd'hui, je pense que aller chercher l'information, le diagnostic, ça peut être très important si tu te mets dans une dynamique de prendre soin de toi. C'est-à-dire que si tu vis dans un environnement stressant, tu sais que là, il va falloir changer. Il va falloir changer ton...
Ouais, ça peut être changer de boulot. En tout cas,
c'est prendre conscience que ton rythme de vie, il n'est pas sain pour toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour une meilleure qualité de vie? Alors, est-ce qu'on a besoin du diagnostic ou pas pour ça?
Oui, après tout, c'est vrai que...
Chacun est libre.
On sait très bien. Tu vois, pour plein d'autres raisons, de toute façon, améliorer son hygiène de vie et s'éloigner du stress,
mais voilà,
c'est toujours valable.
En fait, voilà, je pense que ça peut parler à tout le monde, tout simplement, de prendre soin de soi comme tu fais, tu vois.
C'est ça.
Voilà. On respire, on se redresse et puis, voilà, et mettre des rituels dans ses journées... Alors, ce n'est pas facile. Moi, je pense que c'est un pas après l'autre. pour le faire moi-même. Il y a des jours où tu peux pas, il y a des jours où tu es face à ton énergie qui est basse. Voilà,
ça, c'est pour soi-même. Là, on parle de soi-même, c'est ça, de prendre soin de soi-même.
De prendre soin de soi, oui. Ouais. Et alors, voilà. Là, tu vas me dire, et pour son proche.
Bah, c'est ça.
Ben,
Que faire?
Alors, je pense que première des clés, c'est d'abord passer par soi. Parce que quand tu accompagnes un proche dans cette maladie, en tout cas dans du handicap cognitif, parce qu'on n'a pas défini exactement ce que c'était tout à l'heure, mais en tout cas dans du handicap cognitif de surcroît évolutif, ça prend de l'énergie. Ça te prend de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et si tu ne prends pas soin de toi, tu risques d'aller vers des murs. et parfois de ne pas prendre les bonnes solutions. Voilà, tu risques de t'enfermer dans des situations où à un moment donné, je discutais ce week-end avec quelqu'un qui me disait « Personne ne m'a demandé comment j'allais. »
Mais oui, bien sûr.
Et du coup, il a choisi une solution, il a tout claqué, il a divorcé.
Il est parti.
Voilà. Est-ce que c'est la bonne solution? Il se retrouve encore plus seul. Mais voilà, il recevait 10 appels par jour de sa maman, à devoir faire des allers-retours alors qu'il habite à plus de 200 km de sa maman. Parenthèse, on dit qu'un aidant habite à une moyenne de 200 km de son proche.
Ah oui, quand même. Donc, ce n'est pas des proches si proches que ça, géographiquement, en fait.
Oui,
200 km, c'est une sacrée distance.
Oui, c'est sûr. Ça peut être encore plus. Tu sais, en Bretagne, il y a beaucoup d'enfants, d'aidants, qui sont à plus de 200 km.
En
Bretagne, on aime bien naviguer, on aime bien voyager. Et donc, on peut avoir des enfants en Australie, on peut avoir des enfants au Japon, on peut avoir des enfants dans le sud de la France, ou inversement, comme dans mon cas, ma maman qui est dans le sud de la France. Et donc, on essaye de gérer à distance. Donc, j'en reviens à ce que je te disais. Prendre soin de soi, je pense que c'est la clé pour rester en énergie.
Donc, prendre des pauses aussi, c'est ça. Enfin, ne pas être tout le temps 24 heures sur 24 aidant, c'est ça.
Non, mais on est 24 heures sur 24 aidant. Donc, non, c'est peut-être juste avoir peut-être son hygiène de vie, c'est-à-dire est-ce que tu arrives à préserver ton sommeil? Si ton sommeil s'est dégradé, qu'est-ce que tu peux faire pour le garder de qualité? Voilà, mais ça se travaille en séance, hein, mais ensuite ça peut être les rituels le matin. Est-ce que tu as une petite activité physique pour t'oxygéner, pour stimuler ton débit sanguin? Est-ce que tu t'hydrates suffisamment? Est-ce que ton alimentation t'apporte une énergie ou pas? Ou est-ce qu'elle, au contraire, elle tire sur toi, elle te fatigue? Voilà, c'est passé en revue un petit peu ton déroulé de journée et là où tu peux introduire une petite routine qui te fait du bien. Tu vois, on parle de méditation, on parle de respiration. Est-ce que tu peux mettre une petite séance de cohérence cardiaque par-ci, par-là, dans ta journée?
Donc, les proches aidants peuvent aussi consulter une psychomotricienne, en fait, finalement. Enfin, ils doivent.
ils doivent, en fait, on est plusieurs à proposer du soutien, de l'accompagnement, de l'aide. Moi, c'est ce que je sais faire, parce que je l'ai, en tant que chef d'une équipe spécialisée Alzheimer pendant 5 ans, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, auprès des personnes malades, mais auprès des proches aussi. Donc, apporter des solutions pratiques, voilà, pour gérer le quotidien. Et c'est ce que je fais aujourd'hui sur Crozon, sur Carré, sur Quimper.
Et quelles peuvent être sinon les solutions pratico-pratiques assez simples à mettre en place pour aider quelqu'un qui perd ses moyens, enfin qui perd sa mémoire par exemple?
Oui. Alors tu sais, c'est comme ça, je peux donner 2-3 astuces parce que
oui, c'est ça.
Parce que sinon, en règle générale, ça demande quand même de comprendre la situation. Et c'est pas en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Voilà.
Non, mais c'est pour dire que ça existe, enfin qu'on peut mettre en place des choses. Quoi.
Ça existe. Il y a des choses simples. Moi, ce que j'aime bien, ce que je conseille quasiment à tout le monde, c'est des horloges numériques. On trouve ça sur des sites de vente en ligne. Ici, sur, en tout cas dans le Finistère, je n'ai pas trouvé un magasin qui en vende. Donc, malheureusement, ça se passe par Internet. C'est des horloges très simples, cadrans. En fait, c'est une écriture blanche sur fond noir ou inversement qui indique le jour, la date, qui indique du coup l'année aussi.
Très lisible, quoi, c'est ça.
C'est très lisible. Mmh. Il y a cette seule information et en dessous de cette date, donc le 4 décembre 2023, qui indique si on est le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. C'est très simple. Et ça, si c'est posé au bon endroit, entouré des bons outils, c'est vraiment aidant.
Il peut y en avoir plusieurs dans la maison, de toute façon. Hein,
alors,
c'est ça.
Exactement. Chez ma maman, il y en a plusieurs. Il y en a un dans la chambre, il y en a un dans la cuisine, il y a d'autres choses dans le salon. Voilà. Ce qui permet, en fait, que quand elle se réveille, elle voit le jour. Ça permet de la resituer. Voilà, c'est vraiment une béquille. Et dans la cuisine, c'est adossé aussi à d'autres outils qui lui permettent de savoir ce qui va se passer dans la journée. Parce que c'est dans la cuisine, parce que c'est là où elle passe la majorité de son temps.
On parle beaucoup de l'importance de se socialiser dans ses... ouais. Pour pas perdre, enfin pour moins perdre ses moyens. Qu'est-ce qui est proposé aux personnes qui ne sont pas encore en institution, en structure, mais...
Ah oui, ben alors, l'institution, attention, ça arrive très très tard.
Oui, mais oui,
c'est ça. Et ça arrive pour ceux qui le veulent. Ça arrive... Je le précise parce que j'accompagne justement une jeune femme dont la maman est à domicile avec son mari. Et il y a une grosse question autour de cette entrée en établissement. C'est pas forcément la solution pour tout le monde. Hein, le domicile, ça peut être encore chez soi, ça peut être dans des structures habitat partagé, ça peut être sous différentes formes le domicile. Donc oui, le lien social, je suis entièrement d'accord. C'est hyper important. C'est hyper important parce que ça veut dire qu'on a encore des citoyens. Nous, c'est ce qu'on fait sur Carré. Alors, tu me tends la main, mais pourquoi on a créé notre association sur Carré ? C'est un club adapté pour les personnes qui ont des fragilités cognitives. C'est justement parce qu'il y a besoin d'espace, de lieux où on se retrouve, où on se rencontre, où les choses sont pensées pour être à équité.
Oui, parce que sinon, une association lambda, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, un club de bridge, c'est pas forcément... voilà, on n'a pas forcément cette approche-là. C'est ça, en fait,
oui,
la question.
C'est ça, c'est-à-dire que ben, si le groupe de personnes qui accueillent connaît. Donc, il n'y aura pas de jugement, il y aura des comportements adaptés, accueillants. Voilà, on sera dans de l'intégration, dans de l'inclusion. Et on va penser nos déplacements pour que ce soit facile pour tout le monde. Et pour que... Je parle vraiment d'équité, c'est-à-dire pour qu'on ne se sente pas mal à l'aise avec nos difficultés, mais pour que ça soit facile. Et dans notre groupe, on a un monsieur qui a d'énormes difficultés au niveau du langage. Mais ce n'est pas un frein. Ce n'est pas du tout un frein. Au contraire, pour le groupe, c'est facile parce qu'on communique aussi au niveau émotionnel, on communique au niveau des gestes. Voilà, la communication, elle n'est pas que verbale, enfin, à travers des mots et des phrases construites. On communique par plein d'autres biais.
Après, des associations comme ça, voilà, il n'y en a pas partout, des associations inclusives, quoi, c'est ça ?
Non, malheureusement, il n'y en a pas partout. Nous, on veut bien partager notre expérience.
Oui, bah, on lance un appel.
Ouais.
Et quand on est loin de son proche, est-ce que ça vaut le coup quand même de, je sais pas, téléphoner tous les jours ou tous les deux jours ? Enfin, est-ce que ça vraiment...
ouais.
C'est de la socialisation quand même, même si c'est à distance ?
Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Tu sais, quand on est sur du handicap invisible dans ce genre de maladie, et bien souvent, quand on est sur du handicap invisible, ça rime avec aidant invisible. Et oui, parce qu'on ne voit pas tout ce que cela signifie d'accompagnement. Voilà. Et quand on est à distance, et bien, ce que font la plupart des aidants, c'est qu'ils œuvrent beaucoup via les moyens techniques, le téléphone, les réseaux sociaux, enfin je dis WhatsApp, mais ça peut être aussi de la visio. Et grâce à ça, on soutient beaucoup de choses. Alors, il y a de la coordination avec les différents acteurs, mais directement avec son proche, bah, ça permet de garder un rythme. Voilà, on peut maintenir des rythmes comme ça à distance. On peut soutenir des actes aussi à distance. Et oui, ça fait du lien aussi. Ça, voilà, on discute, ça permet de partager ce qui s'est fait dans la journée. Donc, ça permet de rompre aussi avec l'isolement.
Je ne sais pas si c'est vrai que ces outils sont finalement malgré tout assez récents. On ne sait pas encore quel impact ça peut avoir aussi sur est-ce que ça stimule les personnes ou est-ce qu'au contraire c'est délétère. Enfin, ça, tout ce qui est écran numérique, j'imagine alors, qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir ça.
Alors attends, je mets un bémol. C'est quand je te dis outils numériques. Par exemple, là, ma maman, mon frère lui a offert un iPhone parce qu'il pense que c'est très intuitif, c'est facile. Elle n'y arrive pas. C'est arrivé trop tard, ouais. En fait. Non, nous, on a toujours le même téléphone. Je galère parce que quand il tombe en panne, je cherche exactement le même parce qu'elle a ses habitudes de fonctionnement et il ne faut pas changer, surtout maintenant, on n'arriverait pas. Mais pour quelqu'un plus jeune, qui aurait l'habitude de ces outils, c'est fabuleux parce qu'effectivement, ça permet de rester en contact avec un maximum de membres de la famille, de voir les petits-enfants, les enfants. Oui, c'est... Après, là, tu me parles de tout ce qui est en ligne, c'est ça, les jeux qui peuvent être... Il y a des choses très, très bien qu'on utilise, notamment en séance de maintien des compétences cognitives. Ça peut être très chouette. Et facile, où il n'y a pas de notion d'échec. Voilà, on est plutôt sur de la notion de réussite, donc c'est très bien.
D'accord. Non, mais ouais. C'était une question générale. Oui, bon, oui. On va devoir arrêter ici, déjà. Merci beaucoup, Eve. Bien sûr, on peut réécouter cette émission sur le site de Radio Évasion. À bientôt.
À bientôt, merci.